Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté.
Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales.
Alors bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Les idées radicules. Je suis présentement avec mon frère Michael Côté et moi-même Jean-William Côté. Aujourd'hui, on a un épisode très, très spécial. On était vraiment contents de pouvoir enfin l'avoir sur notre show. On va parler avec Jean-Martin Fortier, puis on va parler de souveraineté alimentaire. On était vraiment contents, moi puis Mike, de pouvoir jaser avec lui parce qu'on a quand même une relation un peu particulière avec lui. On a travaillé sur une de ses fermes, donc on a eu à plusieurs reprises l'occasion de pouvoir jaser avec lui des moments vraiment là, privilégiés et particuliers où il a pu nous transmettre sa passion, nous donner des petits conseils. Fait que, tu sais, moi puis Mike, on a comme tour à tour été inspirés. Très inspiré par lui. Fait que c'est vraiment un plaisir de pouvoir le recevoir, de prolonger, d'avoir une autre discussion très intéressante avec lui. Donc, j'espère que vous allez triper parce que nous, on a vraiment aimé ça, enregistrer avec lui. Donc, merci d'être des nôtres et bonne écoute.
Donc, on a avec nous un récipiendaire de la Croix du service méritoire. Écoute, parmi les plus hautes distinctions du régime canadien, de la distinction honorifique, toi, Jean-Martin, tu l'as reçu.
Premièrement, bravo.
Il y a un gros bravo.
Écoute, c'est incroyable quand même là, d'avoir une distinction comme ça. Wow.
Ça recommence sur 10.
Vous êtes vraiment coco, les gars, de commencer avec ça.
Ben écoute, on va tout de suite se lancer un peu dans le sujet qu'on a envie de traiter aujourd'hui. Là, c'est souveraineté alimentaire. Yes. Clairement, t'es un gars qui a une opinion là-dessus puis que t'en inspires plusieurs avec ta vision. Ouais. Fait que c'est de ça qu'on a envie de jaser avec toi. On a plein de sujets qu'on aimerait traiter. On a juste une heure. Fait que on va essayer de condenser ça.
On va faire ça short and sweet.
On va faire ça short and sweet.
Yes. C'est parti. Je voulais savoir, tu sais, j'ai commencé. Tu sais, évidemment, on se connaît un peu. J'aurais aimé ça que tu nous parles un peu plus de tes débuts, notamment, tu sais, tout ton passage à Santa Fe, puis le rôle un peu que ça a joué dans qu'est-ce que tu as apporté ici au Québec.
Ben avec plaisir. Écoute, mon histoire à moi. Elle est vraiment simple, puis elle est pas unique. Tu sais, c'est que moi j'ai gradué à McGill, puis c'est là que j'ai rencontré Maud Hélène, puis on étudiait les deux à l'école de l'environnement McGill, puis on étudiait un peu le désastre écologique en cours, puis on a passé 3 années à regarder les problèmes environnementaux, puis sans dire que c'était déprimant là, c'était comme bon, mais tu sais quand nous ça fait 20 ans là qu'on parle des changements climatiques, tu sais c'est pas nouveau pour nous là. Et quand on a fini, on voulait faire quelque chose de positif. On a voulu contribuer au changement de paradigme qui doit s'opérer pour un monde plus écologique. Puis on est parti de McGill, puis on a fait un road trip, puis on est allé travailler sur des fermes de café équitable au Mexique. Puis on a fait ça pendant un temps, puis c'était chouette. Puis moi, j'étais bien inspiré par le travail de Laure Varidel, qui était comme une pionnière du café équitable puis du mouvement équitable au Québec. Puis on a passé du temps là-bas, puis on a comme compris la réalité paysanne, puis tout ça. Mais c'était pas vraiment... C'était pas là notre destin, faut croire. Puis après ça, on est allé au Nouveau-Mexique, parce que c'est juste en haut du Mexique. Puis là, on a travaillé dans des earthships, puis là, on a construit des maisons en pneus recyclés, des maisons qui étaient dans le désert, là, autonomes en eau, autonomes en électricité, des maisons vraiment magnifiques. Auto-construite. Puis ça nous a vraiment touché parce que c'était comme, moi je viens de Saint-Bruno, tu sais, c'est une banlieue. Puis j'avais jamais pensé qu'on pouvait vivre autrement, qu'on pouvait juste avoir une autre façon de vivre des maisons, tu sais, des maisons qui sont faites en rond, des maisons avec des bananiers qui poussent dedans, des maisons avec des douches flyées, tu sais, comme. C'était tout nouveau pour moi, ça. Puis après ça, on est allé à Santa Fe, qui est une ville super progressiste aux États-Unis, une ville où beaucoup de hippies ont déménagé là dans les années 60-70. Puis il y avait comme un mouvement vers le bio, vers le local, vers la justice sociale, vers la spiritualité. C'était vraiment fort là-bas. C'était très avant-gardiste. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler sur une ferme bio. Puis le maraîcher, il venait du Québec, il s'appelait Richard Bélanger. Puis c'était un dude là, qui était trop cool. Puis avec lui, on allait au marché, puis tout le monde le saluait. Puis c'était vraiment un héros là-bas. Là. C'était le Salad King, c'est lui qui faisait la plus belle mesclun de tous les fermiers. Malade. Puis pour moi, pour répondre à ta question, c'était vraiment d'être dans une communauté où les fermiers avaient un rôle important, où les gens mangeaient local, mangeaient en saison, c'était super important. Puis, tu sais, tout le concept de bienveillance puis de vie alternative, c'était vraiment là, à l'avant-garde. Puis ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré quand je suis revenu au Québec, parce que quand on est revenu au Québec, c'était vraiment pas ça, là. T'sais. Puis, tu sais, tout le trip qu'on a à Frelisburg avec les mercredis fermiers, puis toutes les autres fermes qui sont ici, puis les produits bio qui sont à l'épicerie, puis t'sais, ça n'existait pas. Mais moi, je l'avais vu. Je l'avais vu ailleurs, puis je me disais, je travaille pour créer ça ici. Puis aujourd'hui, peut-être que vous deux, vous allez vivre ça à Frelisburg, puis vous allez déménager à je sais pas où, à Candiac ou à Shefferville ou à je sais pas où, puis vous allez amener cette vision-là de créer un monde plus trippant par l'agriculture, où est-ce que vous allez aller. Puis ça, c'est la grande chaîne qui fait qu'on avance.
Très cool. Ouais.
Moi, ce que je trouve cool dans tout ça, c'est que tu sais, ton parcours, ben, il est inspirant d'un, mais je trouve que ce qui est vraiment nice, c'est que tout ce que vous avez fait, là, tout le temps été dans un style de lifestyle vraiment nice, tu sais, comme faire un road trip, puis genre aller visiter des places cool, puis de, tu sais, de contribuer à ça, mais en même temps, c'est comme, c'est jamais fait dans l'espèce de sacrifice, puis de genre, on va trouver quelque chose de tu sais, c'est fait dans un lifestyle qui est vraiment nice.
Dans une optique de mieux-être, puis de bien-être.
C'est vraiment inspirant. Puis, mais ça...
Ben écoute,
ouais.
Moi, ce que j'ai envie de te répondre à ça, c'est que nous, on a choisi de faire ce métier-là parce qu'on voulait jouer dehors. Ouais. OK? Parce que travailler dans un bureau toute la journée, ça ne nous intéressait pas. Après ça, nous, c'était sûr qu'on voulait contribuer d'une manière concrète puis positive. Tu sais, travailler au ministre de l'Environnement, là, ministère de l'Environnement, puis faire des lois, là, puis des projets... que personne écoute, puis tout le monde s'en sac. Ça, c'était pas ça.
Ouais.
Puis après ça, c'était l'idée d'avoir nos hivers off pour faire comme Richard Bélanger, là, le fermier chez qui j'étais, lui, il partait au Mexique tout l'hiver, puis il tripait là-bas. Puis moi, je me disais, moi, je vais aller faire du surf ou je vais aller faire du ski dans l'Ouest, puis je vais avoir une vie de tripeur. C'était ça, c'était pour le lifestyle aussi qu'on a choisi ce métier-là. Fait que tu sais, dans notre quête de sens au début, il y avait cet élément-là. Fait que tu sais, ça a collé. Puis tu sais, aujourd'hui, je porte ma casquette un peu à côté. Puis pour moi, c'est important de dire oui, on est full sérieux dans ce qu'on fait. On est des professionnels jusqu'à l'os. Ouais. Mais on est, tu sais, c'est cool, là. Ouais.
Non, c'est ça, exact. On peut être super sérieux, planifié, préparé, mais tout ça, ça se fait dans le plaisir, man. C'est vraiment cool.
Moi, j'avais une question aussi. Tu m'as devancé un peu, puis rapidement, tu sais. Justement, tu sais, là, tu sais, t'as dit, ah, tu sais, le fait de passer des lois, puis tu sais, la politique, il y a vraiment un côté très travaillé pour des fois pas beaucoup de reconnaissance, pour pas voir nécessairement beaucoup de développement. Mais avec ta notoriété maintenant que t'as, qui est comme, tu sais, qui est plus à faire, là, on s'entend, est-ce que pour toi, tu penses que ça serait genre une suite logique de dire, ben là, tu sais, j'ai impacté en présentant un nouveau modèle, en présentant un lifestyle? Là, je vais essayer d'aller dans genre l'envers du décor, puis...
Je pense pas, parce que moi, j'ai vraiment quand même la conviction que les lois, les projets de loi, ils suivent le mouvement. Ils sont pas à l'avant-garde du mouvement, tu sais, dans le fond. La raison pourquoi en ce moment ça bouge au niveau politique, puis qu'il y a de la reconnaissance envers les petites fermes, c'est pas parce que je suis mêlé à ça, c'est juste qu'il y a tellement de monde qui veulent faire cette agriculture-là. Qu'à un moment donné, quelqu'un comme le ministre d'Agriculture n'a pas le choix de constater que les écoles d'agriculture sont pleines, que tu sais, il y a plein de jeunes qui veulent faire ça. Fait que là, ils répondent un peu. Ils répondent à ça, puis ils disent, OK, ben là, les lois, on va être obligé de les adapter.
Mm.
Mais, tu sais, ça, c'est vraiment un mouvement qui part de la base. Tu sais, ça. Moi, je vois vraiment le tipping point. C'est comme, à un moment donné, quand on va être tellement nombreux à vouloir faire une agriculture différente, puis à réclamer aussi de manger des produits d'une agriculture qui est faite différemment, ouais. Que là, les lois. Tout va s'organiser autour de ça. Mm. Mais si j'étais comme le maître absolu ou le premier ministre du Québec, puis j'essayais de forcer ça, si les gens sont pas prêts encore, si la mouvance est pas là, ça marche pas non plus, tu sais. Fait que moi, je vois que le politique est à la remorque. Puis moi, tu sais, si j'ai une qualité, je pense, c'est que je suis un avant-gardiste, tu sais. Je vois ce qui s'en vient. Puis je suis Verseau, puis on est dans l'ère des Verseaux, puis je suis un vrai Verseau, là, tu sais. Je vois, moi, je suis quelqu'un que, tu sais, les gens vont dire que t'es visionnaire, mais c'est juste que je vois ce qui s'en vient, puis je me sentirais bien mal d'être, je sais pas, j'ai envie de jouer ce rôle-là, moi, d'être un peu en avant de la parade, mais tu sais, les politiciens sont pas en avant de la parade, ça, c'est sûr et certain.
Ah, puis d'ailleurs, tu le fais très bien, parce que si je suis ici, ben c'est clairement parce que t'étais avant de la parade, puis à un moment donné, ta vision m'a vraiment inspiré, puis justement, ben j'ai envie qu'on développe un peu là-dessus, tu sais, là, on veut parler de souveraineté alimentaire, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi, justement, ta vision là, concrète de ces... Comment que ça pourrait se concrétiser, ça, au Québec, une souveraineté alimentaire?
Ben moi, je pense que ça, c'est une super belle question à poser, puis... T'sais, ça veut pas dire que la réponse, elle est pas toute trouvée, que la question est pas bonne, parce que la question que tu poses, c'est celle qu'il faut continuer à poser puis écouter toutes les réponses possibles.
Ouais.
Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une direction. On est en direction vers faire en sorte que les gens au Québec vont manger plus de produits qui sont faits au Québec. Plus de fruits et légumes, mettons qu'on se concentre sur les fruits et légumes, là. Plus de fruits et légumes produits au Québec, mangés en saison par des Québécois. Puis que ça l'augmente sans cesse. Puis c'est porté par une idée d'un nationalisme, d'une fierté de manger local, puis aussi d'une conscientisation de l'importance de manger en saison.
Tellement.
Puis manger en saison, là, c'est pas un espèce de dictat qu'on se donne, c'est pas un privilège qu'on s'enlève, c'est une célébration des aliments qui sont mangés au bon moment, dans les bonnes conditions. Tu sais, c'est manger des ananas au mois de janvier, ça a zéro rapport quand il fait moins 20 dehors, tu sais. Mais de faire un bon mijoté de légumes bouillis ou de légumes rôtis, des carottes, des navets, des betteraves, avec une salade de choux, ou avec des épinards qui viennent d'une serre, ça, c'est hot. Ça, c'est cool.
Ouais.
Ça, c'est bon pour la santé, puis c'est en équilibre avec tout ce qui se passe autour. Il y a tout ça qu'il faut comme réapprendre. Puis ça, c'est la souveraineté alimentaire. C'est un bon véhicule aussi pour que les gens redécouvrent les plaisirs de manger en saison. T'sais, c'est comme ce qu'on est en train de vivre, les gars. Moi, je pense, là, c'est comme tout le monde qui sont pas allés dans le sud cet hiver, là.
Ouais.
Qui ont réalisé que c'était beau l'hiver au Québec.
C'est ça.
Pour vrai.
Ouais.
Puis qui ont apprécié l'hiver, puis qui se sont dit, ben en place de tout le temps m'en aller dans le sud, là, pourquoi je fais pas juste du ski de fond, puis j'apprécie pas ce que j'ai ici? C'est quand même beau.
Ben oui.
Puis il y a plein de monde qui sont devenus des accros de la neige, puis de l'hiver cet hiver, tu sais. Puis c'est un peu la même chose. Fait que là, je prends un long détour pour répondre à ta question, mais.
C'est parfait.
C'est ça. La souveraineté alimentaire, c'est deux choses. C'est d'augmenter la production puis les légumes mangés ici, puis c'est de manger en saison.
Oui, clairement. Ouais. Ah, puis tu le dis, tu sais, dans le fond, là, c'est le fun. Là, ça nous a permis d'embrasser notre nordicité. Puis clairement, c'est on le voit des fois, que j'ai l'impression qu'on le voit comme un frein, mais si on se met à y penser pour de vrai, c'est une belle opportunité qu'on a d'être dans ce genre de climat-là. On a des produits à offrir qui sont riches, tu sais.
Ouais. Ça pourrait faire notre particularité. Puis non seulement ça, je pense que, tu sais, faire... comme tu disais, manger un ananas en janvier, je pense que c'est pas comme ça que tu vas découvrir des trucs culinaires intéressants. Puis ça se rapproche pas de la bonne bouffe, ça se rapproche d'un espèce de manger, d'une manière de manger un peu cheap, basée juste sur les coûts, puis comme qu'est-ce qu'on se fait donner.
Malgré qu'il va coûter cher, mais
il va coûter cher, mais cheap en termes de goût.
Non, c'est ça. T'as clairement pas un ananas à son meilleur
En plein hiver.
Puis tu sais, les gars, aussi, une affaire, c'est quand on est en train de créer un changement social, quand on propose quelque chose de différent, il y a toujours des gens qui sont là pour dire que c'est des rêveurs ou ça n'a pas rapport ou économiquement ça tient pas la route ou mais sur ce point-là c'est difficile de dire c'est une mauvaise idée d'avoir plus de produits locaux consommés par des Québécois parce que pour notre économie ça aurait un impact majeur.
Ouais.
Puis ça c'est pas chiffré, c'est rarement chiffré, mais ça aura un impact, ça crée de l'emploi, ça fait en sorte que les produits, on a la meilleure traçabilité, on sait d'où ils viennent. Tu sais, on reconnecte avec l'agricole d'une manière positive, puis ça, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Ouais. Tellement.
Non, un impact sur l'économie, puis sur notre environnement, là, tu sais, c'est sûr, là, ça sans aucun doute. Là.
Exact. Puis ouais, puis qui est pas, je pense, comme tu le nommais un peu, qui n'est pas juste non plus. Tu sais, oui, premièrement, je pense que ça peut être monétaire, puis tu sais, ça peut être très viable économiquement de se réapproprier notre territoire puis notre alimentation. Mais non seulement ça, je pense que, comme tu le dis, là, genre l'impact que ça peut avoir sur nos communautés, comme tu parlais tantôt de Frelish, comment ça a redynamisé la région, au final, toutes les fermes qui se sont créées. Tu sais, oui, c'est économique, mais il y a aussi. Tu sais, c'est premièrement économique, mais il y a tout aussi qu'est-ce qui en découle, tu sais.
C'est social aussi.
Exact, ouais. Exact. Moi, je me demandais, est-ce que, tu sais, un peu plus sur le côté downside, qu'est-ce qui freine, selon toi, actuellement, un peu l'essor du mouvement, mettons?
Les épiceries.
Les épiceries,
Ouais.
À cause de leur manière d'offrir un peu les mêmes produits ou qu'ils sont vraiment. C'est eux qui sont réfractaires à embarquer dans cette nouvelle vague-là?
Je le sais qu'il y a des chaînes qui font des efforts.
Ouais.
Tu sais, je suis vraiment aux premières loges de ça. Juste dans le modèle, tu sais, présentement, les gens, ils rentrent dans une épicerie, puis ce qu'ils voient, c'est une abondance complète de tout qui vient de partout. Ouais. C'est l'attente qu'on crée.
Ouais.
C'est que si tu veux des bananes, ou si tu veux des fraises, ou si tu veux n'importe quoi... des kiwis, ben il y en a. Puis ça, c'est l'attente que l'épicier crée. Puis lui, l'épicier, il va dire, « Oui, mais moi, je réponds aux besoins du client. » Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est lui qui propose. C'est lui qui propose quelque chose. C'est son magasin. C'est lui qui choisit qu'est-ce qui vient dans son magasin. Puis parce que lui, il joue pas son rôle d'éduquer les gens sur ce qui est correct, ce qui est bon, puis ce qui est en saison. Ben les gens, ils sont pas, ils vont pas dans des marchés fermiers l'hiver, les gens, fait que, mais tu sais, une épicerie qui serait plus responsable aurait une section de légumes congelés bio local immense, aurait plein des légumes racines en profondeur, aurait aussi des verdures.
Ouais.
Qui sont poussés au Québec pour avoir des tomates du Québec, tu sais, ils pourraient vraiment avoir une offre qui est belle.
Ouais.
Mais qui éliminerait tous les produits qui sont juste pas nécessaires. Puis là, ben les gens, ils retrouveraient une normalité, puis ils diraient, ah ben c'est ça, au Québec, c'est comme ça qu'on mange l'hiver. Fait que c'est drôle, hein, mais moi je trouve que c'est en ce moment, les épiciers, ils font partie du problème d'une importante façon.
Ouais, je comprends. Puis justement, je me disais comme, un peu moins en lien, mais en fait... Oui, excuse-moi. En fait, tu sais, là, en ce moment, il y a beaucoup de légumes, de verdures qui peuvent se faire durant l'hiver, quand même, de légumes racines. Là, on commence de plus en plus aussi à parler de la possibilité des serres, tu sais, au Québec. Je pense que toi aussi, tu as fait partie beaucoup du mouvement pour essayer de promouvoir la possibilité que les serres pourraient avoir ici au Québec. Je sais que le gouvernement, je pense, a été réceptif jusqu'à un certain point. Est-ce que... Je me demandais si, est-ce qu'il n'y avait pas,
Est-ce que tu penses que jusqu'à un certain degré, cette idée-là pourrait être comme trop poussée, puis que ça devienne, tu sais, des espèces de grosses serres immenses, puis qu'on essaie de remplacer peut-être un peu l'agriculture de paysanne, de saison, pour faire des immenses serres qui produisent un peu de tout le temps, puis genre.
Ben, j'aime beaucoup ta question, puis tu sais, le point que tu soulèves, il est vraiment excellent. C'est de dire, si on dit qu'au Québec, on veut une politique pour la souveraineté alimentaire, ça sous-entend qu'il va y avoir des investissements qui vont être faits. Ça veut dire que, tu sais, le gouvernement va mobiliser des énergies pour pousser dans ce sens-là. Ça veut dire qu'Hydro-Québec va peut-être, tu sais, rendre de l'énergie disponible pour faire des légumes en hiver. Mais ça, il faut que ça soit encadré pour que ça ne devienne pas n'importe quoi, tu sais. Mm. Ça ne devienne pas, comme tu décris, tu sais, des fraises en janvier, parce que c'est pas nécessaire. Mm. Que ça ne devienne pas, ben là, OK, on veut plus importer de bananes, fait que là, OK, on va faire des serres de bananes. Tu sais, on pourrait faire des serres de bananes, là, mais c'est pas comme ça qu'on veut nourrir le Québec, tu sais. Mm. Puis, fait que, oui, il faut que ça devienne avec un certain encadrement. Mais encore là, Jean-William, pour te donner mon point de vue, cet encadrement-là va venir d'une norme sociétale. Mm. Comme qu'aujourd'hui, ça serait vraiment pas acceptable de fumer dans la salle d'accouchement, ouais, ou dans un taxi ou dans un avion. Mm. Ben là, c'est comme, à un moment donné, ça devient juste comme plus acceptable que tu me proposes des fraises en janvier fraîches. Mm. C'est comme... C'est comme, hey, on comprend que ça n'a pas rapport, ça, au niveau de l'écologie. Comme, on veut pas ça, tu sais. Mm. Fait que moi, je pense qu'il faut vraiment travailler au niveau de la conscientisation, au niveau de l'éducation, puis dire aux Québécois, tu sais, écoutez, là, vous allez être heureux à manger en saison, puis vous allez bien manger, vous allez apprécier toute la richesse de notre nordicité. Puis oui, vous pouvez avoir des bananes pareilles. Il peut y avoir des bananes à l'épicerie. Il n'y en a pas vraiment de problème. Ouais. C'est juste que c'est pas comme ça qu'on veut se nourrir principalement. Que ça soit comme un bonus ou une cerise sur le Sunday.
Un petit luxe de temps en temps.
Je sais pas comment le dire. Là, mais...
Ben écoute, t'as donné des pistes de solutions quand même. Mais sinon, c'est dans une optique où genre on voudrait que ça accélère, puis que comme la souveraineté alimentaire, ça plus... vraiment, genre, se développer rapidement, c'est quoi que tu penses qui sont des solutions? Ça peut même être un peu utopique, là, mais genre, tu sais, si on voulait vraiment que ça bouge vite, là, genre.
Faudrait que tu convainques Ricardo d'en faire une de ses top priorités. Donc, ça veut dire que lui, son message principal deviendrait ça, puis que tous les gens qui le suivent, puis qui cuisinent, puis qui vont à l'épicerie, embarquent, puis disent à leur épicier, écoutez, c'est inacceptable, nous, on veut pas, puis que toutes les recettes de Ricardo soient enlignées avec des légumes de saison. Mm. C'est un gros, gros travail d'éducation qu'il faut faire, mais tu sais, je vois pas de shortcut mis à part de... Tu sais, ou qu'il y ait une grosse pandémie, ou que les frontières se ferment complètement, puis que la chaîne industrielle qui nourrit les épiceries soit brisée, que l'on soit forcé de redécouvrir comment manger en saison, mais... Ouais. Moi, je pense que c'est un travail d'éducation populaire. Okay. Fait que c'est quoi la meilleure manière d'arriver à ça? T'sais, moi, je pense, si tu me demandes, là, ultimement, là, ça serait de le convaincre lui.
Ouais, c'est bon, on va
se mettre sur ça.
Espérer que Ricardo nous écoute. Mais ouais, c'est vrai, ça ferait du sens. Ça ferait du sens, vraiment. Bon point.
Ouais. Mais c'est clair, hein, avec quelqu'un qui a autant de poids puis de portée, avec un peu monsieur, madame, tout le monde. Puis tu sais que moi, des fois, c'est un peu l'impression que j'ai aussi, que mettons, il y a une jeunesse de plus en plus concernée. Pas nécessairement juste une jeunesse, mais que, je sais pas, mettons, moi, dans mon entourage, les gens qui ont un peu l'âge à mon père ou l'âge à ma mère, des fois, veux pas, puis c'est pas pour blâmer ou mettre un... pointé du doigt, mais je pense que c'est sûr qu'ils ont comme pas eu le même accès peut-être à une agriculture, un modèle différent. Puis, fait que moi, je pense que je vois clairement le rôle, écoute, que ça pourrait jouer. Tu sais.
Moi, je peux te donner un conseil parce que j'ai un petit peu plus de millage que toi. Et moi, je trouve que l'arme la plus forte pour bousculer les choses, faire avancer notre entourage, là, je parle de l'immédiat, tes amis, tes parents... Ouais. C'est l'enthousiasme, Jean-William. Mm. c'est si toi t'es enthousiasmé par ça, puis si toi t'es comme hey check mes rutabaga, puis tu cuisines un plat de rutabaga, puis tu sais tu capotes sur chaque bouchée, puis t'en parles, puis tu sors le vin nature, puis puis comme t'es comme t'as une photo de ton fermier de famille dans tu sais sur ton frigo, puis c'est ça. Non mais c'est ça qui change les choses, puis parce que les gens, ils suivent l'énergie, puis l'énergie, elle va où est-ce qu'il y a de l'excitation, en fait. Si c'est le fun, si c'est cool, si c'est positif, le monde embarque. Puis à l'inverse, puis ça, c'est prouvé, là, si on culpabilise les gens, puis si on leur explique qu'ils sont dans l'erreur, puis si on leur dit quand tu prends l'avion, tu pollues, puis tu sais, quand on leur dit tout ça, là, ils sont comme, ah, oh, toi, je vais plus t'entendre, là, tu sais, comme décroche. Fait que c'est vraiment... tu sais, c'est vraiment ça. Puis moi, en tout cas, c'est ça que j'ai suivi toute ma carrière pour faire avancer les idées, c'est à travers mon enthousiasme puis ma vision positive. Puis oui, des fois, je me permets des petites flèches, tu sais, de dénoncer des trucs, mais je le fais jamais avec, avec une amertume qui fait que je deviens aigri, tu sais, parce que dans le fond, on avance. Exact. Même si ça paraît pas, on avance.
J'aime ça. Je trouve que c'est une belle piste pour...
ouais, c'est cool.
Pour essayer de d'avoir un impact. Puis je pense que comme tu l'as dit, là, ça t'es la preuve vivante qu'au final ça marche.
Ouais. Puis donc, je veux juste excuse, je t'embarque tout de suite parce que là, tu sais, nous on te connaît, on prend pour acquis que le monde te connaisse, mais le mouvement des petites fermes que tu veux créer, peux-tu nous en parler un peu dans le fond, c'est quoi ces petites fermes-là? C'est quoi qu'ils ont de spécial?
Ben. La révolution qu'on est en train de vivre au Québec, puis pas juste au Québec, c'est qu'en ce moment, puis ça a commencé depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui veulent faire de l'agriculture. Ces gens-là, pour la plupart, pas tout le monde, mais pour la plupart, ils viennent pas du milieu agricole. Ouais. Donc, ils n'ont pas des parents qui ont une terre, puis qui vont se faire léguer ou qui vont se faire prêter, puis ils n'ont pas un héritage agricole. Ils ont un autre bagage. Souvent, ils sont allés à l'université ou ils viennent de milieux de travail, autres. Puis, ils n'ont pas le loisir de s'acheter une grosse ferme qui coûte des millions. Mais ils veulent quand même faire l'agriculture. Puis là, ça, c'est en conjoncture avec le fait que les circuits courts, c'est-à-dire les marchés fermiers, les projets de panier bio, les coops de solidarité, l'achat local, sans intermédiaire, ça s'est développé de sorte qu'aujourd'hui, sur un hectare cultivé en légumes, tu es capable de vendre des légumes à des centaines et des centaines de gens qui vont te rapporter assez de sous pour arriver à payer ta ferme, puis arriver à dégager un salaire, puis même peut-être bien en vivre. Nous, c'est notre cas au Jardin de la Grelinette. T'sais, on est sur moins d'un hectare cultivé. Puis, tu sais, Maud Hélène, elle se dégage un salaire qui est excellent. Fait que, puis ça fait 15 ans qu'on fait ça. Fait que, c'est comme un peu l'idée de dire, on réinvente l'agriculture pour qu'elle soit plus petite, qu'elle soit de proximité, moins mécanisée, moins dispendieuse. Puis on vise pas à faire des volumes de production. On vise pas à faire 2 cents sur le litre de lait. Donc là, ça nous prend 10 000 vaches. Pour faire un peu d'argent, tu sais, on va faire, je sais pas moi, 2-3 piastres sur le litre de lait parce qu'on va le vendre directement. Puis c'est ça la logique qui est derrière tout ce qu'on fait. Puis voilà, donc j'essaie de le résumer.
Ouais, ben c'est bien résumé.
Mais je sais pas si j'ai bien fait ça.
Ouais, je pense que ça, c'est clair pour n'importe qui nous écoute là. Plus t'enlèves d'intermédiaires, plus il y en a qui reviennent dans tes poches, puis, puis ça fait que t'as un bon contact avec le client, c'est beau, c'est le fun, c'est génial.
Moi, justement, je me demandais, est-ce que tu penses qu'avec ce phénomène-là de la multiplication, tu sais, des petites fermes, puis des jeunes comme, mettons, moi puis Mike, qui veulent accéder à des plus petites parcelles puis faire de l'agriculture, est-ce que tu penses, selon toi, qu'on va y arriver, admettons, si un moment donné le Québec se donnait vraiment comme mission, OK, on veut, je sais pas, qu'à 85% de qu'est-ce qu'on mange soit fait ici au Québec, tu penses-tu que c'est possible qu'on puisse nourrir le Québec en petite ferme, tu sais?
Ouais, je pense que c'est possible.
Cool. Ouais.
Je pense que, ben en fait, je voudrais pas dire je le sais que c'est possible, mais tu sais, moi, j'ai des beaux livres sur l'agriculture qui étaient faits en France au 18e puis au 19e siècle, avant les années 40. Puis une ville comme Paris, qui avait comme 4 millions d'habitants, était nourrie par des milliers puis des milliers de maraîchers en ceinture de Paris, qui cultivaient un hectare, moins d'un hectare, des fois deux, c'était rare. Puis ces gens-là amenaient les produits dans les marchés fermiers deux, trois fois par semaine. Puis les Parisiens sortaient de chez eux, allaient chercher les produits. Puis ça, c'était pas rétrograde, là. Il y avait plein de belles choses là-dedans. Puis le territoire était aménagé d'une façon très différente. Au lieu que ça soit des immenses champs, c'était plein de petites parcelles avec des haies fleuries, avec des chemins qui menaient d'une ferme à l'autre. Puis c'est sûr que c'est un contexte différent aujourd'hui, mais tu sais, avoir une ferme de 1000 hectares qui nourrit le marché de New York, ou, je sais pas moi, 2000 fermes de 1 hectare qui nourrit Sherbrooke, qui nourrit Trois-Rivières, qui nourrit Québec, qui nourrit Drummondville, ben, tu sais, je veux dire, ça revient à dire, est-ce que ça serait absolu? Est-ce que tout viendrait de là? Peut-être pas, mais ça pourrait être une grosse partie. Puis ça serait pas, il y aurait pas de problème à ça, tu sais, je veux dire, c'est pas inefficace comme idée, là, au contraire.
Non, c'est ça.
C'est juste une différente façon de concevoir comment les choses évoluent, tu sais.
Puis, mais justement, tu sais, genre, je me disais, je voyais ça un peu, on en a jasé dans un autre épisode, dans le rôle que pourraient jouer toutes les petites fermes, ben, t'sais, il faut qu'à un moment donné, on puisse accéder à la terre. Puis en ce moment, un des gros freins que je constate et qu'on jase beaucoup, c'est justement l'impossibilité de pouvoir t'sais, prendre une terre de, je sais pas moi, 100 hectares, puis en prendre une petite parcelle pour juste faire du maraîchage ou faire un type d'agriculture à petite surface. Comment tu vois qu'on pourrait comme passer par-dessus ça? Est-ce que la solution est encore une fois de l'individu?
Ben, sur celle-là, je dois t'avouer que là, le politique va falloir que ça rentre en ligne de compte parce que c'est des lois qui protègent le territoire agricole. Donc, ça, il faut que ça bouge. Puis là, dans le fond, les politiciens, les gens qui sont derrière le zonage agricole, ben eux, ils répondent à la population. Donc, c'est important qu'il y ait des jeunes comme vous deux qui laisse savoir aux instances que c'est un gros problème, puis que vous voulez faire l'agriculture, puis que c'est difficile, c'est voire même impossible de trouver 2 hectares de terre, tu sais, ça n'existe pas. Puis que, tu sais, quand t'achètes, quand il y a un terrain de 5 acres, là, 3 hectares, 2 hectares, ben là, c'est un dentiste de Montréal qui l'achète, tu sais. Puis lui, il a un peu plus de cash que toi, tu sais.
C'est dur de faire compétition contre un dentiste de Montréal. mais en même temps...
Il n'y a rien de mal contre les dentistes. Je pense qu'ils sont là.
Mais justement, tu sais, dans cette lignée-là, je pense que c'est le fun parce qu'on voit que ça bouge malgré tout. Tu sais, avec ton premier livre, là, Jardinier maraîcher, tu as été super ouvert avec ta façon de faire, tes techniques, tes chiffres. Ce qui fait que on voit maintenant que c'est possible. C'est rentable, tu sais, on le sait. Puis là, tranquillement, ben, on voit le nombre de fermes. Tu sais, justement, cette année, je pense qu'on a remarqué, là, c'est une des premières fois depuis longtemps que le nombre de fermes a augmenté au Québec. Puis dans les analyses, on remarque que c'est des petites fermes qui font que ça augmente, tu sais, la quantité de fermes. Puis, tu sais, j'imagine que ça s'en va dans le bon sens. Là. Si le monde regarde les chiffres, OK, ils voient que ça augmente. Le monde veut des petites fermes, c'est rentable. Il y a de plus en plus de projets qui naissent. Ça s'en va dans le bon sens. T'es-tu d'accord? C'est encourageant, ça?
Ben oui.
Yes.
Moi, je suis super optimiste.
That's it.
M'attendais à... Tu sais, moi, j'y ai toujours cru, mais tu sais, des fois, avant de le voir, tu sais, tu... Moi, quand j'étais au cégep de Victo, puis j'ai vu le nouveau campus, puis...
Hey, il est beau.
Le cégep de Victo, il y a un programme en bio, puis quand j'ai compris que les inscriptions étaient, tu sais, que c'était contingenté, moi je me pince là. quand le ministre de l'Agriculture, tu sais, cherche à me contacter pour s'assurer que les projets de loi répondent aux besoins des petits maraîchers, je me pince, tu sais, quand j'entends le premier ministre dire hey, « il faut manger québécois », je me pince. Tu sais, ça bouge en ce moment, c'est le fun. Mais tu sais, ça bouge à cause qu'il y a des gars comme vous autres, puis des femmes qui font d'autres projets ailleurs, qui portent ça, puis qui c'est votre enthousiasme, puis votre volonté de vouloir faire avancer ces idées-là qui fait que ça bouge, tu sais.
Ouais.
Fait que faut pas lâcher.
Yes, sûr, je suis bien d'accord avec toi, justement... Ça bouge, mais de ton côté, c'est clairement, ça bouge vite. On a vu, tu sais, il n'y a pas si longtemps, tu lançais ton premier livre, deuxième livre est arrivé, troisième livre, t'enchaînes les émissions de TV. Maintenant, il y a un nouveau projet qui est super hot. Je l'ai ici avec moi, là. Growers, tu nous racontes des super belles histoires de maraîchers qui ont du succès, qui vivent des beaux lifestyles, justement. Avec une nouvelle ligne de vêtements en plus, vraiment cool, qui donne envie de s'équiper, bien s'équiper pour aller faire ce métier-là. Mm. Ça bouge vite. C'est quoi les prochaines étapes pour toi, pour Growers?
Ben, je suis super content que tu en parles. Merci, parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Ben là, Growers va avoir la deuxième édition qui va sortir en mai.
Cool.
Puis là, je travaille fort sur ça, là, tout rassembler les histoires, trouver les meilleures histoires. Mm. Puis, tu sais, tout faire le travail de monter une revue comme ça, c'est beaucoup de job.
Ah, ça paraît, oui, c'est de qualité.
C'est une revue qui est uniquement en papier. Mm. Fait que, tu sais, c'est vraiment s'assurer que c'est un bel objet, que papier c'est recyclé. Inspirant. Puis, c'est ça. Fait que ça m'occupe beaucoup. Puis, la ligne de vêtements aussi, ben là, on est tout en train de sortir des vêtements plus techniques, des pantalons avec des genouillères.
Ah oui.
Des salopettes aussi de travail, des électrolyses pour mettre dans ton eau. Tu sais, je veux dire, plein de choses qui font que quand tu vas être dans le champ, tu vas être content d'avoir des vêtements puis des outils qui sont adaptés à ta réalité.
Mm. Yes.
Puis moi, je travaille super fort là-dessus. Puis en même temps, je continue d'enseigner mon cours en ligne. Je développe du contenu. Tu sais, je cherche des nouvelles façons de travailler pour être encore plus efficace dans le jardin, pour pouvoir aider les gens. Mm-hmm.
Ouais,
puis avec tout ça, puis la vie familiale, puis la prochaine étape là, c'est que là on fait des polar bears. Fait que là on a fait un trou dans la glace, puis là quand j'ai fini avec vous deux, je m'en vais straight up dans l'eau froide.
Ah ouais.
Parce qu'il faut rester cool.
Ah ouais.
Faut rester cool dans tout ça, tu sais, faut pas trop s'énerver.
Wow. Nice, j'aime l'idée. Ouais. T'es cool. Chanceux en plus, t'as ça dans ta course, c'est pas si pire, t'as pas besoin d'aller sauter dans le fleuve.
Nice. Moi, j'aimerais ça savoir un peu. Tu sais, là, justement, tu sais, on parle de tous les projets, puis là, on parle de ça comme si c'était un continuum un peu, tu sais, parce que dans le temps, c'est comme ça qu'on l'a vu. Mais est-ce que tu avais déjà un peu. Admettons qu'on te prend toi, là, à 17, 18 ans, est-ce que, tu sais, le projet de magazine, le projet de créer ta propre ligne de vêtements. Est-ce que tu avais comme déjà ça dans ton sketchbook, tu sais, ou c'est venu comme au fur et à mesure quand l'inspiration puis l'enthousiasme était là?
J'aime beaucoup tes questions, Jean-William. C'est le fun, ça me remet dans une perspective différente. Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, on dirait que mon parcours, c'est peut-être le parcours de plusieurs personnes qui vont avoir peut-être mon âge ou... C'est comme à un moment donné, tu sais, tu montes des marches, puis là, ça te permet de voir un peu plus loin. Mm. Puis là, tu avances, puis là, tu te rends compte que, ah, OK, tu sais, ça, je savais pas ça, là, je sais ça. Puis moi, ça a été beaucoup de comprendre les opportunités qui étaient devant moi, de comprendre l'écosystème, de faire des rencontres aussi qui m'ont aidé, tu sais, de rencontrer M. Desmarais. Ça a été majeur dans ma vie. Ça a ouvert plein de chemins que je connaissais pas, tu sais, plein d'opportunités, plein de façons aussi de comprendre un autre univers qui n'était pas le mien. Fait que, tu sais, la vie, ça a été pour moi une série d'événements, de rencontres qui ont fait que j'ai fait des nouveaux choix sur des périodes, je te dirais, de 3, 4, 5 ans. Mais, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai grandi dans une banlieue comme tout le monde, là, puis j'avais rien de spécial ni d'unique à mon parcours, même que, tu sais, je me souviens vraiment bien quand j'avais 17, je pense, tu parlais de 17 ans, là. Tu sais, moi, je travaillais au monde de ski à Saint-Bruno. Je donnais des chaises.
Ah ouais.
Puis, tu sais, quand tu donnes les chaises, t'as comme la moitié de ton chiffre, tu donnes les chaises, l'autre moitié, t'es en haut dans la cabane, tu regardes le monde débarquer. Puis, t'écoutes The Buzz, là, 99 The Buzz, là, puis là, ça fait comme... 5000 fois que tu entends les mêmes chansons, puis tu regardes le même, la même petite pente. Moi, je rêvais à Whistler, je rêvais à plein de choses, puis j'étais à Saint-Bruno dans ma petite montagne. Puis à un moment donné, mon boss, qui était quand même un gars cool, il m'a dit « Hey, Jean-Martin, parce que j'y racontais que j'espérais à plus un peu, là. Puis il me dit « Savais-tu qui travaillait ici avant, Jean-Martin? » Il me dit « Guy Laliberté donnait des chaises, comme tu donnes des chaises, man. »
Ah ouais.
Fait qu'il dit « Décourage-toi pas, puis tu sais pas où est-ce que la vie va te mener. Continue de rêver, puis arrête de regarder le bas de la montagne, puis regarde par en haut, puis that's it. » Puis wow. Écoute, moi, je me suis souvenu de ça, puis je garde espoir que la vie m'apporte des belles choses. Puis j'essaie de redonner. Puis j'essaie de pas laisser mes démons m'envahir quand ça arrive. Là, j'essaie de toutes les façons de rester positif, puis de rester aligné sur mon X, puis de... C'est ça, profiter de la vie.
Wow. C'est merveilleux. Ben man, c'est super inspirant. Puis, tu sais, je trouve que c'est une... Je trouve ça le fun aussi parce que, tu sais, cet été, bien évidemment, on l'a dit, tu sais, on est venu à la Grenette. Puis, tu sais, on a eu, des petits moments où on a pu discuter ensemble. Puis, je me rappelle de d'entre autres, tu sais, un truc que tu m'avais dit. Ah, ben, tu sais, c'était, je pense, dans la première semaine là, que je suis arrivé à la Grenette. Puis, tu me disais, ah, ben, tu sais, vois comment ça se passe, tu sais, vois comment t'aimes ça, l'agriculture. Puis, tu vas le savoir au final si t'aimes ça. Tu vas te sentir si t'es sur ton X. Puis, puis bref, je te le confirme après tant de temps, man. Genre, je me suis jamais autant senti sur mon X qu'en agriculture. Fait que merci pour ces petits talks-là. Pour vrai, je trouve que ça m'a vraiment inspiré. Puis tu sais, je sais que je suis pas le seul aussi.
Non, clairement pas.
Ben écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça. Puis tu sais, le monde agricole, c'est pas juste d'être un agriculteur. C'est tout un écosystème de gens qui font que l'agriculture locale existe puis qu'elle est possible. Que ça soit mobiliser les citoyens mangeurs, que ça soit de manger local, que ça soit d'outiller les maraîchers, ou c'est de faire des podcasts pour parler de ces idées-là. Je veux dire, il y a tellement de façons de contribuer. Puis en bout de ligne, ben, c'est un peu notre héritage aussi, notre terroir, notre chez-nous au Québec, comment on veut vivre, puis avec qui, puis en communauté, puis dans quel esprit, puis... Moi, je trouve ça vraiment positif, puis je trouve que votre podcast, il est super cool, les gars, puis je vous encourage à le continuer.
Yes. Ben oui. On va rappeler ça parce que c'est un incontournable un peu, là. La dernière question qui me vient en tête, c'est, tu sais, le COVID, il n'y a pas de secret, ça nous a touchés, là, fort à plein de niveaux. Des impacts, là, qui sont vraiment lourds pour plein de monde, mais il y a quand même du positif qui est sorti de ça, puis ça l'a fait bouger les choses dans un bon sens, là. Selon toi, c'est quoi que ça l'a amené de plus beau à travers le mauvais, si on veut?
Tu parles pour moi ou tu parles pour la société?
Ah ben pour toi, mais pour la société aussi. Mais pour toi, on a envie d'entendre ton histoire un peu.
Ben moi, j'ai arrêté de voyager, puis je m'en rendais pas compte, mais voyager, c'est vraiment taxant sur le système. Puis j'étais toujours déshydraté, je pense. Je buvais pas assez d'eau, puis j'étais souvent malade, puis... J'étais loin de ma gang, loin de ma famille, puis c'est ça. Je pense que de plus voyager, en fait, ça m'a fait du bien. Puis ça me donne envie de créer aussi beaucoup dans ma collectivité, de pas être obligé de faire des projets partout dans le monde. Tu sais, c'est...
Ouais.
On va changer le Québec, puis quand le Québec va devenir comme le village des Gaulois.
That's right.
C'est yes. Ça qu'on va faire.
That's it.
Ouais, puis ça va inspirer le reste, là. Je suis pas mal certain que déjà t'en inspires ailleurs dans le monde, là. Quand on regarde la masterclass, là, ça s'en vient de partout pour apprendre tes techniques, là.
Exact.
Et c'est très cool.
Tu vois, même en France, ils l'appellent, c'est la technique Fortier.
La technique Fortier?
Non. Ouais, la méthode Fortier.
Et voilà.
C'est nice.
Cool, mais écoute... Jean-Martin, pour vrai, un énorme merci d'avoir participé à notre podcast. C'est super intéressant. Puis évidemment, je pense que on va pouvoir te voir dans une nouvelle émission prochainement. Je pense.
Ouais.
Puis sinon, j'ai bien hâte de voir la suite des projets aussi que tu vas sortir, notamment la deuxième ligne de Growers.
On va checker ça.
Très cool, les gars, puis longue vie à votre initiative.
Yeah. Yes.
Merci, Jean-Martin.
Ciao, Jean-Martin, merci.
Parfait, bye.
Donc, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur le site web d'Élevage et Culture.
Et sur la page Facebook d'Élevage et Culture. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le contenu, là, allez liker la page, subscribe si c'est pour YouTube. N'oubliez pas de donner des étoiles aussi, je pense pour Apple Music.
Ouais,
fait que vraiment, lâchez-vous lousse. Là. Faites-vous plaisir, là, ça va nous faire plaisir à nous aussi.
On a besoin d'amour.
C'est ça, on a besoin d'amour. Donc, tous nos épisodes vont être disponibles sur Google, Apple Music, Spotify, YouTube. Si jamais aussi vous voulez écrire en commentaire des vidéos, repartir les débats, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire un plaisir de vous lire, de vous écrire.
Toujours.
Donc, ça a été un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. On se revoit au prochain épisode du podcast Les Idées Radicules.
Salut! Merci.